Des actes des apôtres ou les actes des apôtres d'abord. Donc, si on vous parlez des actes des apôtres, vous vous dites ou on vous a dit que c'était un ouvrage qu'aujourd'hui on attribue à l'évangéliste Luc, qu'on a presque toujours attribué à l'évangéliste Luc, mais parfois ça a été discuté. Donc, l'évangéliste Luc est pour nous l'auteur de deux ouvrages, l'évangile et les actes. De fait, on peut constater un lien, plusieurs liens, qui s'établissent entre ces deux ouvrages. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça serait un peu technique, mais bon, on a fait beaucoup d'études sur différents plans, sur le plan du vocabulaire, sur le plan des thèmes, sur le plan, bon, plusieurs plans pour voir les correspondances qui peuvent s'établir. Il y a des correspondances évidentes, par exemple, le fait que dans les préfaces, justement, que je vous avais invité à lire, le correspondant s'était appelé dans les deux cas Théophile. Bon, simple, comme correspondance, le destinataire a priori est Théophile. Ça ne veut pas dire pour autant que, nécessairement, du coup, il s'ensuit que c'est le même auteur, parce qu'on peut choisir de faire comme faisait un tel, et on s'adresse aussi à Théophile. Bon, mais il y a beaucoup d'autres correspondances, et qui, manifestement, ne sont pas de l'ordre du, simplement, de la volonté ou du hasard, de quelque chose de très choisi. Il y a une autre correspondance, par exemple, que vous pouvez voir très nettement, c'est que la fin de l'évangile, ça se termine avec le récit de l'ascension, et le début des actes, ça se termine aussi avec le récit de l'ascension, mais présenté un peu différemment, mais enfin, bon, c'est du même ordre. Il y a encore d'autres correspondances, vous voyez, elles sont diverses, celles que j'évoque exprès. L'évangile commence en quelque sorte au temple, avec l'annonciation à Zacharie, dans le temple. Si vous regardez, se termine dans le temple, il recommence, en quelque sorte, dans les actes des apôtres, dans le temple. Par contre, et ça c'est évidemment très important, dans les actes des apôtres, la fin ne se passe pas dans le temple. Au contraire, nous sommes à Rome, etc. Donc, il y a eu, vous voyez, on est passé, et c'est une volonté très nette, du temple à une grande ouverture, et cette correspondance à travers le thème du temple. Vous pouvez vous amuser, c'est un thème extrêmement important chez Luc à suivre ce thème du temple. Et puis, regardez, il y a des correspondances encore plus pointues, sur certains, par exemple, sur certains mots, certains emplois, certains, par exemple, le titre de Seigneur. Le titre de Seigneur, normalement, il n'est pas dans la bouche des hommes dans l'évangile de Luc, ou très peu. Je ne vous donne pas toutes les références, mais bon, il y a quelques exceptions, mais en général, il n'est pas dans la bouche des hommes, le titre de Seigneur. Alors que, par contre, dès que la résurrection a eu lieu, ça y est, vous voyez que le terme Seigneur apparaît dans la bouche des hommes, Luc 24, 34, Acte 1, 6, 21 et 24. Bon, vous pouvez regarder, ça apparaît, c'est un... Voilà. Donc, on sent que l'œuvre de Luc, c'est même pas deux œuvres écrites l'une après l'autre. C'est deux œuvres écrites vraiment en correspondance l'une avec l'autre. C'est pas simplement, bon, j'écris le tome 1, maintenant j'écris le tome 2. C'est plutôt un peu comme, vous voyez, les deux volets. Avec une... voilà. Donc, certains même considèrent que, à l'origine, c'était une œuvre unique, ordonnée plus ou moins autour de ce thème, l'œuvre de Jésus, c'est l'évangile, ça, et son accomplissement, sa réalisation. Bon, le thème promesse accomplissement aussi. Donc, c'est vraiment l'évangile et les actes, une œuvre unique en deux volets. Ça veut dire que, pourquoi je dis cela ? Parce que c'est du coup, Luc l'a composé comme cela, l'a voulu comme cela. Et vous verrez que ça va revenir dans des choses que je vous dirai ensuite. Il a cherché à établir sa présentation comme cela. Bon, cela dit, parmi cette œuvre unique en deux volets, je dois vous parler surtout du deuxième volet, normalement. Donc, je vais quand même rester surtout sur le deuxième volet. Mais c'est vrai que c'est difficile de parler du deuxième volet sans tenir compte du premier. Alors, comme il a composé véritablement son œuvre en deux parties, il a utilisé des procédés pour cela. Et c'est ça un peu que j'ai évoqué sur les feuilles que vous avez reçues. Il a utilisé un procédé, alors les exégètes, parce que ça fait très savant. Très...
Et donc, le mot procédé, c'est celui-là en grec, c'est un cas, hein. C'est une critique, bon, qui veut simplement dire mise en parallèle, l'adverbe sun,
et puis ensuite crisis, crinein, jugé, présenté. Bon, donc c'est une mise en parallèle. Alors, cette mise en parallèle, ça c'est vrai, c'est donc le processus clé par lequel Luc réussit un peu à composer son œuvre. Alors c'est pour ça que je vous ai donné un peu des exemples, je vous ai même mis le mot compliqué, c'est une crise. Bon, il y a plusieurs manières de considérer le développement des actes des apôtres, je vais revenir la structure un peu profonde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a en particulier deux grandes parties. Alors ça il suffit d'avoir lu une ou deux fois les actes des apôtres pour s'en rendre compte, il y a deux grandes parties. Il y a une partie, j'allais dire, sans Paul, essentiellement avec Pierre, et puis il y a une partie avec Paul. En plus, ça va très bien, ça veut dire au milieu que la séparation se fait au chapitre 15e. Alors, Pierre n'est pas présent absolument tout le temps, mais il l'est beaucoup au début. Si vous regardez après le chapitre 15, Pierre, comme je dis, il disparaît de la scène. Il n'est plus là. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. J'ai des tas d'idées sur ce qu'il a pu faire, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. Il n'est plus là. En revanche, Paul occupe à lui tout seul la scène. Certains exégètes ont parlé de la geste de Pierre et de la geste de Paul. Vous voyez, c'est très beau ça. La geste de Pierre et la geste de Paul. Donc voilà, on a quand même deux grandes parties. Bon, ben alors on pourrait dire, là aussi, comme je disais tout à l'heure à propos des deux volumes, on pourrait dire, il y a deux grandes parties, il y a la partie 1, puis il y a la partie 2. Mais en fait, et c'est ça que je vous montre le premier document que je vous avais fait remettre, c'est qu'il y a de nouveau des correspondances qui s'établissent à l'intérieur même, vous voyez, des actes des apôtres entre les deux parties. Si on les regarde de près, bon... Celui qui les a notés, c'est-à-dire Aletti, qui est un jésuite qui enseigne à Rome, bon, force un peu par certains moments le trait, mais il y a véritablement, c'est vrai, une correspondance qui s'établit entre la présentation que fait Luc de Pierre et la présentation que fait Luc de Paul. Donc Paul, il intervient, c'est vrai, à partir du chapitre 9, même à la fin du chapitre 8 des Actes, mais il est surtout présent à partir du chapitre 13. Alors c'est pour ça que vous avez Pierre en Actes 1-12, Pierre est encore là après le chapitre 12, un peu, au chapitre 15, mais il disparaît ensuite. Donc vous avez, c'est pour ça que je vous ai mis ça, Pierre en acte 1-12 et puis Paul en acte 13-28, c'est pas tout à fait vrai, si on regarde de près. Donc nous avons ces deux personnages qui vibrent un peu, alors ce sont eux qui font des discours aussi, hein. Les grands discours, c'est Pierre et Paul qui les font. Alors évidemment, on peut aussi comparer les discours, c'est une entreprise extrêmement intéressante. Bon, là, Aletti nous dit, ben finalement, ils font pas exactement les mêmes choses, mais substantiellement les mêmes choses, et puis plus ou moins dans le même ordre. Pas toujours exactement dans le même ordre, mais plus ou moins dans le même ordre. Donc c'est un procédé de composition manifeste. Luc l'a voulu ainsi. Alors ça sert à quoi de mettre des éléments en parallèle comme ça? Eh bien ça sert à voir les correspondances, mais ça sert aussi à voir les différences. C'est pour ça que c'est intéressant. Quand on met en parallèle, on se dit, tiens, là, ça se suit tout à fait, tiens, puis là, ça ne se suit plus. Alors, évidemment, c'est intéressant quand ça suit, mais c'est aussi intéressant quand ça ne se suit pas. Parce qu'on se dit, bah, tiens, l'auteur de l'œuvre, il a voulu signaler quelque chose d'important quand ça ne se suit pas, quand tout à coup, il y a une rupture. Bon, de la même manière, eh bien, on peut considérer que le plan des actes des apôtres est en parallèle avec le plan de l'Évangile. C'est ce que le deuxième texte, le deuxième passage, deuxième feuille, hein, que je vous ai passé, c'est pour vous montrer qu'on peut établir des correspondances à travers le plan aussi. Généralement, c'est quand même pas le plan que nous propose Charles les Platoniers qui est retenu. Donc là, je vais vous demander d'ouvrir vos bibles au tout début des actes, il faut quand même y venir. Et puis ensuite, je vais parler des prologues. Donc, je vous avais invité en particulier à lire le début des actes des apôtres, comme le début de l'évangile, je reviendrai sur le début de l'évangile. Mais ici, simplement, je remarque la chose suivante au début des actes des apôtres. Je prends le texte, je le lis. Dans mon premier livre, Théophile, j'en parlerai, tout ça, je passe sur tout ça. J'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. Bon, et ça continue. Ensuite, là, on reprend le texte de la rencontre de Jésus avec ses disciples après la résurrection. Et je vais vous faire ces 7. Bon, les disciples posent des questions. Est-ce en ce moment-ci que tu vas restaurer la royauté d'Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître le temps et l'heure que le Père a fixé de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. Voilà le fameux verset 8. Il dit fameux parce qu'il a été repéré depuis longtemps. Donnant un peu une des structures possibles de l'œuvre. De fait, si vous suivez ensuite le déroulement des actes des apôtres, Vous savez que ça commence en particulier avec la Pentecôte. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Bon. Ça commence avec la Pentecôte et ça passe sous la Pentecôte à Jérusalem. Ensuite, il y a des discours de Pierre qui viennent commenter l'événement. Ça se passe toujours à Jérusalem. Ensuite, on vous dit, j'y reviendrai tout à l'heure dans la deuxième partie, de comment ça se passe un peu à l'intérieur de la communauté. C'est toujours à Jérusalem. Ah, ensuite, il commence à y avoir quelques ruptures. On commence à s'éloigner de Jérusalem, après les grands discours et tout ça, la vie de la première communauté chrétienne. On va jusqu'au chapitre 5. Au chapitre 6, ça commence à être intéressant parce qu'il y a ce qu'on appelle traditionnellement, mais c'est à mon avis une mauvaise tradition, l'institution de ce qu'on parfois on appelle les diacres. Ici, dans ma Bible, j'ai l'institution des sept, c'est un peu plus vrai parce que ce n'est pas encore vraiment des diacres. Très bien. Mais c'est intéressant parce que ces diacres, ils sont d'origine de langue grecque. On commence à élargir, vous voyez. On est toujours à Jérusalem, certes, mais maintenant, on s'intéresse aux gens qui sont aussi de langue grecque. Et en particulier, on s'intéresse à cet homme qui s'appelle Étienne. Étienne qui va mettre un peu le feu à la baraque. Parce que qu'est-ce qu'il fait Étienne? Il va dire, ah, vous savez, le temple, c'est plus ça. Donc vous voyez comment on s'éloigne imperceptiblement de Jérusalem par la force des choses. On commence à avoir des gens qui parlent de langue grecque. Alors certes, il y en avait à Jérusalem, mais ça nous étend déjà dans le monde beaucoup plus large. Et puis à ce moment-là, intervient le personnage d'Étienne qui dit, vous savez, le vrai temple, il n'est pas fait de main d'homme. Là, c'est la bousculade, là, pour les gens qui entendent ça. Ça bouscule tellement que du coup, il est trucidé. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une persécution qui s'ensuit. Et du coup, on nous dit, les disciples sont dispersés. Ça veut dire, ça y est, on quitte Jérusalem. Et on va où? Et bien, figurez-vous qu'on va justement en Judée, puis en Samarie, avec Philippe. Et puis après, ça continue. Vous savez qu'ensuite, on va voir le récit des voyages de Paul. On commence à aller en Asie mineure d'abord, enfin, ce qu'on a aujourd'hui on appelle l'Asie mineure, bon, le sud de la Turquie. Dans un premier temps, et puis ensuite, on va aller encore plus loin, on va passer le détroit du Bosphore, toujours avec Paul, là, c'est Paul qui est en scène. Hein. On va aller jusqu'en Grèce, et puis jusqu'à Péloponnèse, etc. Et on va aller où, finalement? Tout à fait à la fin, à Rome, exactement. Finalement, ça va jusqu'où? À Rome. À Rome, où est-on quand on est à Rome? Excusez-moi, où est-on quand on est à Rome? Eh bien, d'une certaine manière, on est aux confins de la Terre. Telle qu'on l'a pensé à l'époque, vue depuis la Palestine. On est aux confins de la Terre. Parce qu'on est, en quelque sorte, on est aux confins ou au centre. Enfin, vous voyez, on est au... À l'époque, Rome, c'était le centre. Donc, si on est au centre, on est partout, d'une certaine manière. On a atteint le but. Donc, à la fin, vraiment, on est à Rome. Et d'ailleurs, les actes des apôtres s'arrêtent. Petite remarque en passant, ça s'arrête. On nous dit que Paul était à Rome, bon, qu'il est relâché, il discute avec les juifs à Rome, et puis, paf, ça s'arrête. Alors certains ont dit, ça s'arrête parce que l'auteur, il a écrit à ce moment-là, il n'avait plus d'information, crac, il s'est arrêté là parce qu'il n'avait plus d'information, c'était le moment où il a écrit. D'autres auteurs disent, et à mon avis avec plus de raison, ils disent, mais non, il a atteint son but, l'auteur. Il nous a dit qu'il voulait nous montrer que la parole de Dieu croissait, se déplaçait, allait dans le monde de plus en plus loin. Ça arrive à Rome, on y est, c'est fini. Il a fait sa démonstration. Et c'est tout à fait possible. Ça fait frais, non? D'accord. Donc voilà. Donc vous voyez aussi que ce verset 8 du chapitre 1, il est aussi une clé de lecture des actes. Plutôt de son déploiement. Du déploiement de... Vous voyez, du coup, je vous en ai donné plusieurs, des raisons, en quelque sorte, du déploiement des actes. Je vous ai donné une raison, c'est... d'abord, on parle de Pierre, ensuite, on parle de Paul. C'est pas tout à fait, en plus, sans rapport. Pierre, dans les actes des apôtres, il prépare le terrain de Paul. Donc, on peut lire les actes des apôtres à travers ces deux personnalités, Pierre et Paul. On peut le lire comme un déploiement de la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre à travers le verset 8 du chapitre 1. On peut le lire aussi à travers cette technique que j'ai évoquée de Luc, cette fameuse synchrisis, cette mise en parallèle qui est un procédé absolument constant chez Luc. Donc ceci pour vous dire que peut-on parler de la structure, le plan des actes des apôtres? C'est compliqué, c'est une œuvre à plusieurs entrées. Et c'est ce qui fait toute sa richesse. C'est à mon avis, c'est un chef-d'œuvre de composition. Hein. Alors je vais vous parler maintenant de la composition et de ce qu'a voulu vraiment faire Luc. Mais, du moins d'après ce qu'il nous dit. Alors, vous voyez que le résultat est déjà assez saisissant et très intéressant et évidemment passionnant à étudier. Donc là maintenant, dans un deuxième temps, je vais vous ai montré les diverses entrées qu'on pouvait avoir, les diverses manières qu'on pouvait avoir de lire les actes des apôtres. Mais qu'est-ce que Luc, lui, nous dit qu'il a voulu faire? Ah ben c'est très pratique parce que justement il nous le dit. Alors le problème c'est que j'ai passé ma Bible, donc vous allez me prêter la vôtre, parce qu'il faut que je revienne dans l'évangile au début, donc ce fameux prologue dont j'ai parlé. Ah mais j'en ai une autre, excusez-moi. J'oubliais. J'ai tout ce qu'il faut. Il paraît que Saint-Dominique portait toujours avec lui l'évangile de Matthieu. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup, ils n'avaient pas tellement ce genre d'ouvrage. Nous, c'est quand même plus facile. Donc j'en ai un peu plus que Matthieu. Voilà. Alors, donc, je vous avais invité à lire ces prologues, ces préfaces, si vous voulez, en quelque sorte. Et en particulier, donc, les versets 1 à 4 du chapitre 1 de Saint-Luc. Alors, pourquoi ? A priori, on se dit, c'est le début de l'évangile. Mais comme je vous ai fait remarquer tout à l'heure qu'en fait, l'évangile et les actes avaient vraiment partie liée, que c'était, d'une certaine manière, une volonté de Luc que d'en faire un seul volume. Mais en fait, ce prologue-là, c'est pas seulement le prologue de l'évangile de Luc. C'est le prologue de l'ensemble évangile plus actes. Et en général, je lui donne un autre nom, exprès en référence à Descartes. Je l'appelle le discours de la méthode. C'est assez exceptionnel. Mais on a, c'est pas complètement exceptionnel, ça. Il y a d'autres contemporains de Luc qui le font, mais il nous dit un peu la manière dont il a travaillé, avant de commencer précisément son exposé. Et ça c'est très intéressant. Ça nous montre comment travaillait un historien à l'époque. C'est assez proche de la manière dont travaille un historien aujourd'hui, avec une certaine liberté que l'on va voir. Donc je lis, je ne pourrais pas m'arrêter sur tout parce que le temps passe. Je lis simplement ces quatre versets pour vous les remettre en mémoire. Donc là, je ne sais plus, c'est la traduction de la vie officielle de la liturgie, c'est pas toujours la meilleure, loin de là. Non, je vais la reprendre là. Donc ça, c'est la vie de Jérusalem. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis, ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi l'exposé suivi, excellent Théophile, pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. Comme vous le voyez, c'est vraiment un prologue, je veux dire, il ne raconte rien, il n'est pas rentré dans le vif de son sujet, il va y venir juste après en parlant de Zacharie. Pour le moment, il ne raconte rien. Il nous dit, voilà comment j'ai composé mon œuvre. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais passer un peu vite, mais enfin, le premier point à noter, c'est que Luc nous fait savoir que d'autres récits que le sien existent déjà. Je ne suis pas le premier à faire ce genre de récit. Il ne nous dit pas ce qui a existé avant lui. Ça aurait été sympathique. Ça nous aurait bien aidé pour savoir, par exemple, s'il nous avait dit « Puisque l'évangile de Marc a déjà été rédigé, je m'en suis servi à tel et tel endroit. » Non, il ne va pas jusque-là. C'est dommage pour nous. Enfin, parce que les exégètes, bon, ils auraient eu moins de travail, peut-être. Enfin, ils se seraient posé d'autres questions. Mais, non, il nous dit, voilà, il y a autre chose qui existe déjà. Alors, bon, on peut supposer, par exemple, que peut-être l'évangile de Marc a été déjà rédigé, mais il y avait peut-être aussi d'autres éléments. On pense que Luc s'est servi aussi de ce qu'on appelle les paroles de Jésus. Il y avait peut-être des recueils de paroles, ce qu'on appelle des logia, on utilise le mot grec. Logion, logia en pluriel. Bon, il est possible qu'il existait déjà un recueil de la Passion. C'est sûrement l'une des premières choses dont on pense qu'elle a été mise un peu rassemblée. Vous voyez, c'est parce que c'était le plus choquant, la Passion. Donc il fallait en rendre compte. Donc on s'est sûrement, au départ, tourné surtout vers la Passion, essayer de... Bon, mais on ne sait pas. En tout cas, beaucoup. Donc ça ne veut même pas dire un. Beaucoup. Il en existe d'autres. Donc moi, j'ai décidé de mettre la main à la pâte, nous dit Luc. Alors bien évidemment, on va dire, mais pourquoi toi, tu as besoin d'en refaire alors qu'il y en a déjà? Eh bien, il va l'expliquer tout de suite. Alors, je passe sur le récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Vous avez le terme accomplissement, extrêmement important pour Luc. C'est-à-dire que ce que nous vivons, ce n'est pas simplement un moment de l'histoire. C'est un accomplissement. c'est un sommet, une couronne. Mais, encore une fois, tous les mots sont importants. Hein. Je pourrais vous commenter très longuement tous les mots, mais à ce moment-là, j'ai pas très largement le temps qui m'est imparti. Non, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il nous dit ensuite, plutôt vers la fin. Je me suis informé exactement de tout, depuis les origines. Donc, l'un des accents de Luc, c'est de dire, j'ai fait une enquête sérieuse. J'ai fait une étude costaud. Autant qu'il pouvait le faire, hein, à l'époque, mais enfin, bon. Je me suis informé de tout, depuis les origines. Vous voyez l'insistance. De tout, depuis les origines. Bon, ça veut dire que j'ai fait mon enquête, comme un bon historien, hein, mais j'ai fait mon enquête. Bon. Alors, aujourd'hui, vous avez des gens qui disent, ouais, Luc, il a inventé tel truc, enfin, il a... Bon, j'y crois pas du tout, moi. Je pense qu'ils n'ont jamais lu le prologue. C'est pourtant, ce sont des gens très bien, hein, qui écrivent des choses très savantes. Mais je suis sceptique. Non, mais je suis connu comme étant sceptique à la cato, parce que j'ai toujours tendance à dire que les choses qui sont écrites, elles ne sont pas tout à fait par hasard. Bon, elles ne sont pas inventées en tout cas. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ça. D'en écrire pour toi l'exposé suivi. Les mots ont été bien choisis par les traducteurs. Hein. Parce que dans composer, on a entrepris de composer, ils nous avaient dit au départ. Donc il y a une composition. Moi, j'ajoute ma propre composition. C'est déjà une composition. Composition, moi je vais voir ça un bouquet de fleurs. Je ne suis pas du tout spécialiste de fleurs, je suis nul en bouquet. Mais vous savez beaucoup mieux que moi que, voilà, avec les mêmes fleurs, on peut faire 15 bouquets différents. Bon, la manière dont on compose. Ça veut dire qu'il y a un certain ordre dans votre bouquet, enfin je le suppose. Bon, voilà, le bouquet, l'ordre, il peut être très différent selon les personnalités, selon ce que chacun veut faire, bon. Donc c'est une composition. Alors, Luc nous dit c'est un exposé suivi. Alors, on peut se tromper sur ce que le suivi. Comment compose aujourd'hui les historiens? C'est là la grande différence, c'est la particularité de Luc, me semble-t-il. Ben, les historiens aujourd'hui, on est dans un siècle post-Descartes, on veut de la logique. Et la logique, c'est la chronologique, aujourd'hui, essentiellement, quand vous composez. On vous dit, ça s'est passé en 1975. Si ça s'est passé en 1974, il faut vous en parler avant. À moins de faire ce qu'on appelle un flashback. Bon, enfin, c'est un retour en arrière. Mais généralement, on fait comme ça, on compose d'une manière chronologique. Ben, l'exposé suivi de Luc, il n'est pas chronologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait aucune information chronologique, mais c'est un exposé suivi pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais faire un exposé qui va renforcer ta foi, tes convictions. Voilà ce que je vais faire, mon cher Théophile. Ça veut dire que s'il faut prendre de la liberté avec la chronologie, eh bien on prendra la liberté avec la chronologie. C'est pas grave. L'important, c'est que toi, Théophile, tu t'y retrouves. C'est un exposé, je vais employer le mot, un exposé catéchétique. Simplement. C'est un exposé d'abord catéchétique. Alors ça pose beaucoup de problèmes aujourd'hui aux commentateurs. Parce qu'ils se disent, ah ouais, mais alors si Luc, il a été guidé par des préoccupations catéchétiques, ça veut dire qu'on ne peut pas faire fond sur lui. Ils opposent, voyez, la dimension catéchétique à une dimension historique au sens chronologique dont je vous parlais tout à l'heure. Ah ben dans ce cas, on ne peut pas se fier à ce bonhomme. Il en a pris à son aise. Si c'est vraiment une intention catéchétique, il aura peut-être été prêt à réinventer l'événement, à le... Vous voyez? Ce que je ne crois absolument pas. Parce que Luc dit bien, il a fait toute une recherche, qu'il a fait des suivis, etc. Et quand on étudie en particulier les actes des apôtres, on voit que chaque chose a une certaine place, etc. Alors, la place, elle n'est pas nécessairement chronologique, mais il n'a pas inventé. Il a... Moi, je compare ça souvent, il a pris des notes, c'est pour ça que je parle du bouquet de fleurs. Il avait des notes, il a fait le... Et puis, il a dit ça, comme ça, comme ça. Alors, nous, on dirait, ah, bah tiens, c'est 1974, c'est 1975, ça va après. Lui, il n'a pas fait comme ça, il a dit, ben, après tout, pour que ça aide mon cher Théophile, je vais plutôt dans cet ordre-là, parce que ça montre mieux qu'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'il a inventé, pour autant. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. Le problème, c'est de savoir où on situe l'objectivité. Voilà. Donc, bon... Alors, voilà en quoi cette préface est extrêmement intéressante. C'est parce qu'elle nous dit un peu ce que je vous ai appelé tout à l'heure, le discours de la méthode. Voilà comment, comment je veux dire. Alors, pour les actes des apôtres, c'est extrêmement important, parce que beaucoup d'auteurs lisent les actes, de lecteurs lisent les actes des apôtres en cherchant simplement une chronologie des faits. Ben, d'emblée, c'est pas ça qui est en jeu. C'est pas ça. Vous, sachez-le, c'est pas ça. Ça veut pas dire que ça n'y soit pas, je dis pas ça du tout. Il y a une chronologie, et elle n'est pas artificielle, etc. Mais c'est pas la préoccupation première de Luc, il nous l'a dit. Il faut s'en souvenir. Alors on va le voir en particulier la manière dont il présente l'Église. Ça ne veut pas dire encore une fois l'abandon non plus de toute réflexion chronologique. Bon, mais parfois il vient de dire, du coup vous pourrez lire, vous y ferez attention en relisant les actes des apôtres, mais de temps en temps, il a passé là 2 ans et 3 mois. Bon alors là, crac. Bon. Moi du coup quand il me dit 2 ans et 3 mois, en général je prends. Parce que justement, comme je sais qu'il a une certaine liberté sur la chronologie, quand tout à coup il se permet d'être un peu strict, je prends. Mais à d'autres moments, il nous dit, en ces jours-là, in illo tempore. Comme on fait quand on lit l'évangile, enfin quand le diacre normalement lit l'évangile. En ce temps-là. Bon. Ça veut dire que, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il a inventé l'événement qu'il va nous présenter à ce moment-là. Il a cru bon de le situer à tel endroit. Ça y a une certaine cohérence dans sa pensée, mais ce n'est pas nécessairement une cohérence chronologique. C'est clair, donc ça c'est très important. Alors c'est ce qui fait aussi l'intérêt des actes des apôtres. En particulier, il fait la même chose dans l'évangile de Luc. Et aujourd'hui, je vous parle des actes. Ce qui fait l'intérêt des actes d'apôtres, c'est que c'est un discours catéchétique qui est adressé à Théophile, qui nous est adressé à nous, pour notre foi, d'abord et avant tout. On a tendance à le lire, justement, comme d'abord un ouvrage d'historien, d'histoire. C'est qu'il est aussi. Bon. Et alors, en plus, c'est intéressant, parce que du coup, effectivement, comme il n'y a pas nécessairement une chronologie... rigoureuse, bon ben quand même, on reste des gens de notre temps et on va essayer de la rétablir. Puisqu'elle n'est pas fournie a priori, on va essayer de la rétablir. Ce qui est logique, ça aussi, hein, je n'ai rien contre ça, au contraire, je pratique la chose aussi. Mais voilà, ça fait une autre des richesses de ces actes des apôtres, mais on sait que c'est pas effectivement la chronologie qu'on doit d'abord viser. On a jusqu'au. Combien il me reste 5 minutes là en gros, d'habitude. Tu penses moins, hein, c'est ça que tu veux dire. Non, je vais prendre, je vais prendre les actes. Je vais vous signaler encore un petit point sur les actes, et ensuite je vais prendre un point, puis je terminerai là-dessus. Bon, j'essaie de vous montrer un peu à la fois la cohérence et en même temps la richesse et la diversité des actes des apôtres. Bon, ça c'est une affaire très, très complexe. Alors, je vais vous avouer, mais ça c'est simplement pour information, hein. Qu'il y a une autre richesse, mais une autre complexité aussi des actes des apôtres. Bon, vous en avez un texte qui vous est présenté dans vos Bibles, et parfois vous avez des notes qui vous disent ben, dans tel autre manuscrit, on a tel passage en plus. Des tas de choses comme ça. Il y a beaucoup de notes. En fait, ils vous en mettent une toute petite partie. Eh bien, la difficulté des actes des apôtres, elle est là aussi, en même temps c'est une richesse aussi, mais ça c'est plutôt anecdotique parce que vous n'allez pas rentrer là-dedans. Mais c'est que c'est un texte dont on a deux grandes, ce qu'on appelle recensions en termes techniques, c'est-à-dire deux grands textes selon deux manuscrits différents, j'ai dit. On a une tradition qu'on appelle alexandrine, qui est celle du texte que vous avez. Enfin, en général, c'est ce texte-là qui vous est fourni. Qu'est-ce qu'on appelle un texte court? Et puis vous avez une autre tradition, qu'on appelle occidentale, qui est beaucoup plus longue, et c'est pour ça que vous l'avez pratiquement très peu évoquée dans vos livres, parce qu'elle a longtemps été considérée comme négligeable. Alors de temps en temps, je vous dis, on vous met quelques notes en vous disant, attention, mais il y a ça en plus, dans telle, en général, c'est la tradition occidentale dont on vous parle. Donc en fait, on a deux grandes recensions, oui, c'est le terme technique, mais on ne peut pas employer Et il se trouve qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis déjà pas mal d'années, mais enfin ça a été en particulier mis en valeur par certains de mes frères de l'école biblique de Jérusalem, on est pratiquement convaincu que la deuxième recension, la plus longue, qu'on ne connaît que pratiquement très peu, quoi, parce que, eh bien c'est une recension qui est aussi de Luc. Donc aujourd'hui on s'est compliqué la chose énormément, parce qu'on avait un texte, et déjà il était, vous voyez, multi avec beaucoup de facettes. Ben, en fait, c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a un deuxième texte qui est plus long, et dont il apparaît, là les études sont quand même très sérieuses, que c'est sans doute de la même main aussi que celle de Luc. Il a repris en quelque sorte son ouvrage pour le compléter, pour donner des informations, pour résoudre des apories, etc. Bon. Donc c'est tout ça, les Actes des Apôtres. Alors, pour introduire simplement la suite, quel est le thème un peu qui éventuellement pourrait... le fil conducteur, voilà, c'est le mot que je cherchais. Quel serait le fil conducteur des Actes des Apôtres? Vous dites déjà que ce n'est pas évident, parce qu'il y a plusieurs manières, plusieurs approches possibles. Mais vous l'avez compris quand je vous ai parlé de passer de Jérusalem à la Judée, à Samarie, aux Actes. Je vous ai parlé de Pierre et puis de Paul avec ses voyages. Je vous ai dit on termine à Rome, etc. Bon, il y a incontestablement une préoccupation de Luc, c'est de manifester que l'Évangile, la parole de Dieu, est offerte à tous et en particulier aux païens. Donc c'est pour ça que Paul est la grande figure de la deuxième partie des Actes des Apôtres. C'est lui qui a largement contribué à ouvrir les portes à l'Évangile, en particulier dans le monde païen. Donc c'est la figure par excellence. Alors, Étienne joue un rôle important, vous voyez aussi, pour un peu la même raison. Étienne, je vous ai dit, il a mis la panique dans la boutique. Donc, voilà, il a fait éclater. Alors, vous avez qui est évoqué un peu à travers une thématique de Luc. Luc, de temps en temps, je l'avais signalé dans une prédication récemment, il fait ce qu'on appelle des sommaires, des résumés, un peu des points d'orientation. Il se pose, il prend sa boussole, il avait qui était là. Donc, boussole, point d'orientation, il dit où en sommes-nous. Voilà. Et alors, vous avez ça, par exemple, en 6-7, dans les Actes. 6-7, voilà ce qu'on appelle un sommaire. C'est un tout petit. Je lis, la parole du Seigneur croissait, le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem, une multitude de prêtres se soumettait à la foi. La parole du Seigneur croissait, le nombre des disciples augmentait, et une multitude de prêtres se soumettait à la foi. Ça rompt un peu la continuité, vous voyez, du récit, et tout à coup, il nous dit ça. Mais ça vous montre quelque chose d'important, c'est pour ça que je voulais en terminer là. La parole du Seigneur croissait, c'est ça sa préoccupation. On retrouve cette idée que cette parole se diffuse. C'est pour ça que je vais le dire maintenant, sa préoccupation n'est pas de vous montrer le développement de l'Église, même si je viens tout à l'heure, il le fait, mais c'est de la parole de Dieu, sa diffusion, tous azimuts, voilà. Alors ensuite, le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem, voilà le genre de choses, c'est assez typique de Saint-Luc dans ses sommaires, c'est une phrase tout à fait bateau, ça meuble. Et une multitude de prêtres se soumettaient à la foi, ça meuble, mais en même temps, ça ne meuble pas. Je suis persuadé que c'est une phrase extrêmement importante, parce que il n'avait aucune raison de souligner ce fait-là, ça ne va pas tout à fait dans sa thématique. Tout à coup, il nous parle des prêtres qui obéissaient à la foi, autrement dit, qu'ils se convertissent. Donc ça, c'est un point extrêmement important des Actes des Apôtres, qui est signalé dans ce verset-là. Bon, mais ce n'est pas tout à fait anecdotique, ça a des incidences pour le reste du Nouveau Testament. Mais enfin, dans le récit de Luc, ça est anecdotique. Il n'y reviendra pas. Par contre, il va revenir sur la parole de Dieu croissait. D'accord? Bon, nous, je fais la pause là, donc nous, on va voir dans la deuxième partie, ce qui précède un peu cette parole de Dieu croissait, c'est l'établissement de l'Évangile à Jérusalem, la communauté chrétienne. D'accord ? Voilà.